Vous écoutez On lit pour vous.
Danger sur le chemin de l'école. Un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. Se rendre à l'école à pied ne devrait pas être risqué. Pourtant, des centaines d'enfants ont été victimes d'accidents dans les dernières années, même si les intersections les plus dangereuses à proximité des écoles de la métropole sont connues. Blessés sur le chemin de l'école. Près de 500 enfants ont été blessés par des véhicules au cours des 5 dernières années près des écoles de la province. Certains écoliers doivent emprunter des trajets plus risqués, qui traversent des rues comportant plusieurs voies de circulation ou sans passage piétonnier. La presse a obtenu la liste des intersections les plus dangereuses aux abords des écoles de Montréal, mais aussi des écoles vers lesquelles il est le plus risqué de se rendre. Devant l'école primaire Saint-Joseph, à Anjou, des panneaux installés au milieu du boulevard Châteauneuf pour obliger les conducteurs à ralentir ont visiblement été accrochés par des voitures et sont penchés. Ces panneaux ne sont pas tant utiles, dit en soupirant Émilie Boisclair, qui attend son fils de 8 ans à la sortie de l'école. Le monde s'en fout. Les gens ne font pas leur arrêt. Les vitesses ne sont jamais vraiment respectées, confirme Magali Vachon-Nadeau, enseignante à l'école. Le matin, les gens sont pressés, ils ne font pas attention et la sécurité des enfants est compromise. Qu'il y ait une brigadière ou non. Cette école primaire a été identifiée par Shabnam Abdoulaye, chercheuse postdoctorale à Polytechnique Montréal, comme l'une de celles autour desquelles il y a le plus d'intersections dangereuses pour les piétons. Pour déterminer les intersections les plus risquées pour les enfants, Shabnam Abdoulaye a examiné les rues dans un rayon de 800 mètres des écoles, la distance que peut habituellement parcourir à pied un élève du primaire. Puis, d'autres variables ont été examinées, comme les mesures d'apaisement de la circulation, le contrôle de la circulation, par exemple les feux de circulation ou les arrêts, la présence d'une piste cyclable, le nombre de voies à l'intersection et la visibilité. Normalement, dans l'analyse utilisée par les municipalités, on se concentre sur le nombre de collisions, mais on peut avoir des intersections très dangereuses où il n'y en a pas eu. C'est si dangereux que les gens ne les utilisent pas pour traverser, dit Mme Abdoulaye, qui est également cofondatrice de l'entreprise Safe Mobility, qui aide les municipalités à déterminer les intersections dangereuses. Le travail qu'elle fait permet de cibler les endroits problématiques avant qu'une collision ne survienne. Quartier défavorisé, risque accru. Les élèves qui vivent dans des arrondissements plus défavorisés marchent davantage pour aller à l'école, et c'est dans ces mêmes quartiers que se trouvent les écoles autour desquelles il y a le plus d'intersections dangereuses, explique Mme Abdoulaye. Plusieurs de ces écoles sont dans l'est de l'île de Montréal, à Anjou, et dans le quartier Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. L'école primaire Léonard de Vinci fait également partie de cette liste. Elle est aussi située tout près du boulevard métropolitain. Bien des automobilistes sont pressés d'accéder à l'autoroute et n'hésitent pas à dépasser la limite de vitesse, fixée à 30 km/h dans certaines zones. Une brigadière qui travaille à proximité de cette école du quartier Saint-Michel confirme qu'elle se fait faire des doigts d'honneur par des automobilistes pressés. En 2024, pas moins de 96 enfants de 5 à 17 ans ont été blessés dans la province dans des secteurs scolaires pendant les heures d'école, rapporte la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. En 2023, il y en a eu 100. Le président du syndicat des brigadiers de la Ville de Montréal estime que les automobilistes sont vraiment dangereux. Mettons que le brigadier a sa pancarte. Souvent, ils approchent près du brigadier et ils klaxonnent, illustre Marc Babin, qui représente un peu plus de 600 personnes. Ses membres se font parfois « envoyer chier, le doigt dans les airs », déplore-t-il. Sylvie, mère d'un enfant qui fréquente la maternelle à l'école Léonard de Vinci, dénonce le fait que les voitures ne s'arrêtent tout simplement pas au passage pour piétons dans la rue Villeray. N'est-ce pas une rue plutôt tranquille? Pas le matin et le soir, oh non! Il y a beaucoup de va-et-vient, je trouve ça dangereux, observe-t-elle. Ados au cellulaire. Quartier Hunsic, angle du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue Péloquin. Il est 15h20. La cloche va bientôt sonner à l'école Saint-Paul-de-la-Croix, située à environ 500 mètres au sud de cette intersection, qui figure au palmarès des plus dangereuses, près d'une école primaire à Montréal. Le boulevard Henri-Bourassa sépare deux quartiers résidentiels. Lors de notre passage, seulement 3 élèves de l'école primaire ont franchi l'intersection. En revanche, des dizaines et des dizaines d'adolescents vêtus de l'uniforme de l'école secondaire Sophie Barra l'ont traversé. Tous, à une exception près, les yeux vissés sur leur cellulaire. Un grand nombre n'ont même pas levé les yeux de l'écran de leur téléphone une seule fois. Pourtant, pour passer du sud au nord, il faut traverser 3 voies, un terre-plein, puis 2 autres voies. Il n'y a ni traverse piétonne, ni feu de circulation, ni panneau d'arrêt. Il y a une voie réservée aux autobus, mais elle est barrée pour des travaux de construction. C'est l'heure de pointe et de nombreux véhicules effectuent des demi-tours d'est en ouest. On voit 2 pics de collision dans l'âge des enfants, explique Marie-Soleil Cloutier, professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, et directrice du laboratoire piéton et espace urbain. Le premier survient entre 5 et 7 ans. Là, souvent, ils n'ont pas toute la maturité cognitive pour prendre de bonnes décisions. Juger du trafic qui s'en vient, de la vitesse des voitures, explique la géographe spécialisée en sécurité routière. Le deuxième s'observe entre 11 et 13 ans, lors de la période de transition vers le secondaire. « On leur donne plus de lousse, » dit Mme Cloutier. « Ils vont à l'école secondaire par eux-mêmes en marchant ou marchent pour aller à l'autobus ou au métro. Et là, c'est l'expérience qui leur manque. » Ces 2 pics statistiques ont aussi été observés en Europe et aux États-Unis. La docteure Liane Franzblow, coordonnatrice en traumatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants, confirme que son établissement voit beaucoup d'élèves du secondaire qui ont été happés par des véhicules. La majorité des blessures ne sont pas graves, mais on en a des graves qui se retrouvent aux soins intensifs. Ça dépend de la vitesse de la voiture. On peut avoir des traumatismes crâniens, des grandes fractures, relate la docteure Franzblow. Des brigadiers pour les écoles secondaires? Charlie Shine, 15 ans, a été happé à l'automne 2024 à l'intersection de l'avenue Westminster et du chemin Elsley, à Montréal-Ouest. Le matin de l'accident, il marchait vers son école secondaire, Royal West, avec 2 amis. Avec sa mère, médecin intensiviste pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants, il milite pour la mise en place de brigadiers scolaires aux intersections dangereuses, près des écoles secondaires. D'entrée de jeu, Charlie explique avoir emprunté le corridor identifié comme étant sûr par l'école. Lorsqu'il a été happé, il était sur une traverse piétonne. Il n'avait pas son téléphone et n'écoutait pas de musique. « J'ai traversé l'intersection », explique-t-il. « J'ai regardé avant pour les autos et elles étaient toutes arrêtées. J'ai commencé à marcher et quand j'étais rendu à la moitié de l'intersection, j'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il y avait une voiture qui fonçait sur moi. Le conducteur aurait été aveuglé par le soleil. Par chance, Charlie s'en est tiré avec des ecchymoses. Il croit que la présence d'un brigadier aurait pu changer la donne. » À la suite de l'accident, sa mère, la docteure Samara Zavalkov, a tenté de faire des démarches pour la mise en place d'un brigadier scolaire à cette intersection. « Il nous a été dit par le SPVM qu'on n'avait pas le droit de donner un brigadier à une école secondaire », déplore-t-elle. La médecin, qui travaille aux soins intensifs, est souvent témoin de la gravité des blessures causées par les collisions et croit que l'accident de son fils devrait servir de signal d'alarme. La prochaine collision pourrait être fatale. L'idée de dire aux adolescents « Fais plus attention, ce n'est pas une solution. La solution doit être dans le système, dans la structure », insiste-t-elle. Vous écoutez « Danger sur le chemin de l'école », un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. C'est une question de vie ou de mort. À Montréal, la majorité des collisions graves ou mortelles impliquant un enfant surviennent aux intersections. Pourtant, des milliers d'automobilistes enfreignent chaque année un règlement qui vise à assurer la visibilité des petits piétons. L'interdiction de se stationner à moins de 5 mètres d'un coin de rue. Les agents de stationnement en font désormais une priorité et le nombre de constats pour cette infraction est en constante augmentation depuis 5 ans. 10h15, intersection Cartier et Doyon. Max, agent de stationnement, vient à peine de commencer son quart de travail dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie. Une Subaru noire est garée à moins d'un mètre de l'arrondi du coin. Une peluche mauve traîne sur le tableau de bord. Le Code de sécurité routière du Québec interdit le stationnement à moins de 5 mètres des intersections, notamment dans le but d'assurer la visibilité des piétons qui s'y engagent. Puisqu'ils sont plus petits que les véhicules, les enfants du primaire ont particulièrement besoin que cette règle soit respectée. À Montréal, les automobilistes sont très nombreux à l'enfreindre. En 2024, 28 156 constats ont été remis à ce sujet par l'Agence de mobilité durable de Montréal. Un sommet. C'est un bond énorme comparativement aux 8 426 constats délivrés à la création de l'agence en 2020. Max prend des photos du véhicule. Elles seront versées en preuve au dossier. L'homme de 57 ans imprime ensuite une contravention à l'aide d'un appareil portatif et la fixe sous l'essuie-glace. 186 $. C'est la première de plusieurs qu'il rédigera pour cette infraction durant les 2 heures où la presse l'a suivi. Favoriser la visibilité. La règle des 5 mètres est souvent méconnue. On a augmenté nos interventions pour libérer au maximum les intersections, explique le directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal, Laurent Chevreau, au sujet de la hausse des constats. C'est un enjeu extrêmement stratégique pour la sécurité, dit-il. C'est ce qui fait en sorte qu'un piéton qui va traverser va être vu ou ne va pas être vu par un automobiliste. Donc, c'est une question de vie ou de mort, carrément. Dans la métropole, 67 % des 49 collisions graves ou mortelles impliquant des enfants à pied ou à vélo, 0 à 17 ans, survenues entre 2018 et 2022, ont lieu à une intersection, rapporte le plan d'action 2025-2027, Vision zéro décès et blessés graves, de la Ville de Montréal. Intuitivement, dit M. Chevreau, je pense que ça doit être très rare que quelqu'un tourne lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser, s'il peut le voir. Donc, la plupart du temps, c'est qu'il ne le voit pas. S'il ne le voit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque la visibilité. Se stationner, un calvaire. Max, qui nous a demandé de taire son nom de famille pour des raisons de confidentialité, se déplace d'un seul coin de rue. À l'angle Cartier et Logan, 2 voitures sont garées à l'intérieur des 5 mètres interdits, à l'ombre de la fameuse pancarte blanche montrant le pictogramme d'un enfant qui traverse la rue en courant après un ballon. Le premier véhicule se trouve à peine à quelques centimètres des lignes blanches de la traverse piétonne. Deuxième contravention. De l'autre côté de la rue, la voiture est stationnée à environ 3 mètres du coin, évalue Max en comptant ses pas au sol. Indulgent, il ne donne pas de constat. Durant notre tournée, il en distribuera uniquement aux cas les plus flagrants. Sinon, on ferait juste ça, résume-t-il. Nous reprenons la route. Peu de temps après, Max repère une voiture immobilisée à une intersection. Il fait clignoter son voyant lumineux pour prévenir le conducteur qu'il est garé dans une zone interdite. À l'intérieur, le conducteur, Robert Breton de la Rive-Sud, explique qu'il attend son frère qui l'a accompagné à un rendez-vous médical en compagnie de sa belle-sœur, Lynn Surenne. Il n'en a plus de stationnement à Montréal, déplore M. Breton. C'est un problème pour le citoyen transitoire. C'est un calvaire, ajoute Mme Surenne. Je ne peux même pas te dire c'est quand la dernière fois que je suis venue à Montréal pour voir Montréal, dit Lynn Surenne. Dans ce cas, les 5 mètres d'intersection servent en quelque sorte de débarcadère. S'il y a un towing qui arrive, un camion de pompiers, un policier, on est capable de partir. Ça, je le sais, je suis capable d'être conscient que je ne suis pas à ma place. La question, c'est pourquoi je suis obligée de faire ça? Parce qu'il n'y a rien de disponible, explique M. Breton. Il s'en tire avec un avertissement. Quand la tragédie apporte le changement. 10h56. Nous sommes rendus à l'intersection des rues de Rouen et d'Orion. Un VUS noir est immobilisé sur la traverse piétonne. En biais, une voiture compacte est très proche de l'autre passage marqué par des lignes jaunes. 2 contraventions sont remises. Il y a 3 écoles primaires dans la zone où patrouille Max. Légèrement au nord de son secteur se trouve l'école Jean-Baptiste Meilleur. C'est l'établissement que fréquentait la petite Maria Lejankivska, une réfugiée ukrainienne de 7 ans, lorsqu'elle s'est fait happer mortellement en décembre 2022 sur le chemin de l'école. À notre suggestion, Max s'y rend. Visiblement, la tragédie a transformé les abords de l'école. Plusieurs zones où il est interdit de stationner sont hachurées en jaune au sol. « C'est la première fois que je vois cela », dit l'agent de stationnement au sujet du marquage. « Ça serait l'idéal d'avoir ça dans toutes les zones scolaires et autour des hôpitaux. » Malgré cela, une motocyclette s'est stationnée dans un endroit interdit. Contravention. Dans l'heure suivante, nous intercepterons un homme qui dort dans sa voiture, garée à l'intérieur des 5 mètres, une Tesla stationnée à côté d'un panneau, arrêt interdit. Et même une voiture avec un canot sur un toit qui bloque une traverse piétonne. Un obstacle pour les petits, et même les grands. Afin de sensibiliser les automobilistes, l'Agence de mobilité durable de Montréal a aussi mené une campagne dans les quartiers Villeray et Rosemont. Le message « Ne stationnez pas ici, nous voulons être visibles » a été peint au sol dans des zones de 5 mètres aux intersections. Souvent, les citoyens ne comprennent pas les objectifs des règlements, observe Laurent Chevreau. S'il y a des réglementations, c'est pour une raison, dit-il, et très souvent, c'est pour la sécurité. C'était « Danger sur le chemin de l'école », un dossier de Marie-Ève Moras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.
Faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados? La question divise même les chercheurs. Un texte de Julien Dury de l'agence France Presse paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux enfants et aux adolescents? Appliqué en Australie, envisagé en France et au Royaume-Uni, la mesure divise les chercheurs. Certains la jugent nécessaire face à une menace majeure pour la santé mentale, d'autres défendent une approche plus nuancée. Restreindre l'accès des jeunes adolescents aux réseaux sociaux, c'est un pari qui vaut le coup, estime auprès de l'AFP le chercheur australien Michael Nottel. Depuis décembre 2025, les Australiens de moins de 16 ans n'ont plus accès aux principaux réseaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc., et à d'autres sites Internet communautaires comme YouTube et Reddit. La France compte faire pareil pour les moins de 15 ans avec plusieurs textes dans les semaines à venir, dont l'un porté par le président Macron. Et le premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé en janvier 2026 que son gouvernement n'écartait aucune option, y compris une interdiction aux moins de 16 ans. En cause, les risques multiples associés au réseau. Harcèlement, algorithmes, favorisant la comparaison permanente, exposition à des contenus violents ou sexuels, etc. Depuis plusieurs années, la recherche s'est emparée du sujet. Un livre du psychologue américain Jonathan Haidt, paru en 2024 et vendu à des millions d'exemplaires, a notamment exercé une forte influence politique. Il y défend l'idée que les téléphones intelligents, et en particulier les réseaux sociaux, sont la cause première de la dégradation de la santé mentale des jeunes depuis les années 2000. C'est la génération anxieuse, titre de son ouvrage. Signe de cette influence, M. Haidt, qui n'a pas pu s'entretenir avec l'AFP faute de disponibilité, a été cité par les responsables australiens, puis reçu au printemps 2025 par Emmanuel Macron. Il a également été sollicité par des représentants du gouvernement britannique, a écrit la semaine dernière le journal The Guardian. Son livre reste controversé. Dès sa sortie, la revue Nature publiait une critique de la psychologue américaine Candice Hodges, dénonçant une thèse simpliste qui occulterait notamment les facteurs économiques du mal-être des jeunes. Deux ans plus tard, un relatif consensus se dessine néanmoins sur les effets toxiques des réseaux sociaux, en particulier chez les filles, même si un débat perdure sur l'ampleur du phénomène. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSE, a ainsi conclu en janvier, sur la base de 1000 études, que les réseaux sociaux, sans être les seuls responsables, avaient de nombreux effets délétères sur les adolescents. Elle préconise d'agir sur les algorithmes pour que les mineurs n'accèdent qu'à des réseaux sociaux conçus et paramétrés pour protéger leur santé. Cercle vicieux. Malgré des affirmations trop catégoriques, M. Haidt a attiré l'attention sur un véritable problème, estime Michael Nottel, qui reproche à ses adversaires d'exiger un niveau irréaliste de preuves. M. Nottel a lui-même supervisé une vaste étude parue en 2025 dans la revue Psychological Bulletin et compilant une centaine de travaux mondiaux pour analyser les liens entre écran et troubles psychologiques et émotionnels chez les mineurs. Ces conclusions suggèrent un cercle vicieux. Une fréquentation excessive des écrans, en particulier des réseaux sociaux et des jeux vidéo, a des effets négatifs et le mal-être peut en retour favoriser un recours accru aux écrans. D'autres chercheurs se montrent toutefois sceptiques face à une interdiction généralisée. Des restrictions excessives peuvent être aussi problématiques qu'un usage excessif et cela dépend de l'âge et du sexe, souligne auprès de l'AFP le chercheur australien Ben Singh. Dans une récente étude du JAMA Pediatrics menée auprès d'environ 100 000 jeunes australiens, M. Singh observe qu'un temps élevé passé sur les réseaux est associé à un moins bon état mental, tout comme en cas d'abstinence totale. L'hypothèse des chercheurs est que les réseaux peuvent, dans une certaine mesure, jouer un rôle positif de socialisation et donc limiter l'isolement, notamment chez les garçons. Le scepticisme à l'égard d'une interdiction généralisée s'exprime aussi chez certaines personnalités comme le psychiatre français Serge Tisseron. Les réseaux sociaux sont effroyablement toxiques, estime-t-il, appelant à une régulation ambitieuse. Mais une interdiction générale, redoute-t-il, risquerait d'être facilement contournée par les adolescents, tout en déresponsabilisant les parents et en laissant entière la question de l'éducation au numérique. Le débat s'est beaucoup polarisé ces dernières années entre une interdiction pure et simple ou rien du tout, regrette-t-il, montrant du doigt un paradoxe. C'est exactement la logique des réseaux sociaux, soit tout pour, soit tout contre. C'était « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados ?» La question divise même les chercheurs. Un texte de Julien Durie de l'agence France-Presse paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
Qui paie quoi pour les demandeurs d'asile ? Un texte de Sarah R. Champagne et Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. Québec ne se cache pas de songer à réduire certains services offerts aux demandeurs d'asile si Ottawa n'agit pas pour diminuer leur nombre sur son territoire. La question financière est moins martelée en Ontario, qui obtient néanmoins des versements ponctuels d'Ottawa. Mais est-ce qu'une des deux provinces obtient la part du lion ? La réponse à la question n'est évidemment pas simple, mais elle mérite qu'on s'y attarde, puisque l'Ontario accueille la moitié des demandeurs d'asile au pays. Le Québec bénéficie, quant à lui, d'une entente historique, l'accord Canada-Québec, qui lui donne compétences et financements en matière d'immigration, mais ne couvre pas toutes les dépenses, selon le gouvernement de François Legault. Depuis environ 2 ans, M. Legault et ses ministres invoquent les coûts liés à l'accueil des demandeurs d'asile au Québec, comme leur hébergement, l'aide sociale qui leur est versée et les services d'éducation et de santé qui leur sont rendus. En 2024, il chiffrait sa réclamation à 1 milliard de dollars pour les années 2021-2023. Pendant qu'on parle ici de pression exercée sur les services publics, en juillet, le premier ministre ontarien, lui, réclamait plutôt des permis de travail qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadien, IRCC, distribue déjà. Hébergement. Ottawa a transféré des sommes spécifiques aux demandeurs d'asile par l'entremise du programme d'aide au logement provisoire, le PALP, pour un total d'environ 1,5 milliard de dollars depuis 2019, l'année de création de ce programme. Le Québec en a reçu environ le tiers, soit 542,7 millions de dollars. L'Ontario a quant à lui reçu presque le 2/3 restant. Dans la province voisine, l'argent est essentiellement passé directement aux mains des municipalités qui ont reçu au total 912 millions durant la même période, dont 670 millions de dollars pour Toronto. Mais ce ne sont pas les seules sommes que le fédéral a déboursées en matière d'hébergement. Ottawa a aussi loué des chambres d'hôtel payant plus de 1,1 milliard de dollars au total depuis 2017. Au plus fort des arrivées, en 2022 et 2023, plus de 46 hôtels étaient ainsi en partie occupés par des demandeurs d'asile d'un océan à l'autre. Cet hébergement a toujours été considéré comme temporaire, a récemment rappelé IRCC, tout en indiquant que le financement de cette mesure prendrait fin le 30 septembre 2025, du moins en théorie. Il faut aussi préciser qu'au Québec, l'hébergement temporaire initial est assuré en grande partie par le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, le PRAIDA, le PREDA. Ce programme relève du CIUSSS, du centre-ouest de l'île de Montréal, et il est financé avec l'argent que le ministère provincial de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, MIFI, reçoit d'Ottawa, mais cette fois par l'entremise d'un transfert régulier. Il s'agit donc d'un centre permanent d'hébergement qui accueille les demandeurs d'asile lors de leur première semaine au pays. Transferts généraux. Le Québec a aussi reçu plus de 5,3 milliards depuis 2017 de la part du fédéral pour financer les services d'accueil et d'intégration linguistique pour les nouveaux arrivants en général. Basée sur une formule contenue dans l'accord Canada-Québec de 1991, la somme augmente d'année en année depuis. elle a atteint 775 millions pour l'exercice financier 2023-2024 et est montée à 867 millions pour 2024-2025. Ces fonds doivent servir à tous les immigrants en général, notamment pour la francisation, et non pas seulement aux demandeurs d'asile. Quant à l'Ontario, l'argent passe encore une fois ailleurs que par la province. En 2024-2025, IRCC a envoyé 519 millions directement à des fournisseurs de services d'établissement. Le plus souvent, ce sont des organisations qui accompagnent les nouveaux arrivants dans leur intégration vers le marché du travail, par exemple. Et le reste, santé et assistance sociale. Dans toutes les provinces et les territoires, les services de santé sont couverts par le fédéral, par l'entremise du programme fédéral de santé intérimaire, et ne font ainsi pas l'objet de tractations publiques. D'autres domaines sont, quant à eux, soumis à des négociations périodiques, ce qui donne davantage lieu à une joute à propos des remboursements. C'est le cas des revendications du gouvernement Legault à propos des coûts de l'aide sociale et de l'éducation aux enfants des demandeurs d'asile. Dans le budget déposé en 2023, le MIFI chiffrait les coûts engagés à 576,9 millions et au total à 1 milliard pour 2021 à 2023. Là-dessus, Québec a finalement obtenu 750 millions en juin 2024, dont 581,3 millions sous forme d'une subvention unique, nous écrit IRCC, par l'entremise d'une entente commune. Ce genre d'entente est intervenu à quelques reprises depuis 2017. Dès mars 2018, soit moins d'un an après le début de l'accélération des arrivées, Québec réclamait déjà un paiement de 146 millions de dollars. La province avait dû attendre le mois de juin avant de recevoir un chèque de 36 millions de dollars, une somme qui s'additionnait donc au transfert routinier en immigration. En janvier 2019, peu après son élection, François Legault revenait à la charge et réclamait un remboursement de plus de 300 millions de la part d'Ottawa. Québec finira par obtenir 250 millions de dollars au mois d'août suivant. Plus récemment, on apprenait que 507,7 millions ont été déboursés par le Québec en aide financière de dernier recours à des demandeurs d'asile en 2024. La province demande à être remboursée de la totalité de cette somme. Les demandeurs d'asile représentent ici 17% des adultes prestataires des programmes d'assistance sociale et demeurent en moyenne dépendants de cette aide pendant 11 mois, soit 10 fois moins que la moyenne des autres prestataires, a indiqué plutôt le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale au devoir. Tant en Ontario qu'au Québec, la majorité des demandeurs d'asile détiennent un permis de travail, soit plus de 70%. Les 30% restants incluent aussi des personnes avec des permis d'études, ainsi que les enfants mineurs qui, eux, n'ont pas besoin de permis pour aller à l'école primaire et secondaire. Les demandeurs d'asile sont également admissibles à l'assistance sociale en Ontario, mais la province n'a pas chiffré publiquement ses coûts. C'était « Qui paie quoi pour les demandeurs d'asile ?», un texte de Sarah R. Champagne et Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.